au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir l'historien le plus médiatique. Chacun connaît ses merveilleux talents de conteur. Il s'agit bien entendu de Monsieur Alain Decaux de l'Académie française. Bonjour Monsieur Decaux.
Bonjour et merci.
Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, après une séance de la française, merci beaucoup. Alors si vous êtes au micro de Canal Académie aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier ouvrage sur le coup d'État du 2 décembre 1851. Coup d'État qui, je le rappelle, a permis à Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra le futur Napoléon III, de rester au pouvoir alors que son mandat de président de la République arrivait à échéance et qu'il ne pouvait le renouveler. Le titre de votre ouvrage, je le précise à nos auditeurs, s'appelle donc « Coup d'État à l'Élysée » et est paru aux éditions Perrin. Je précise d'ailleurs que vous avez obtenu pour ce livre le prix de la Second Empire de la Fondation Napoléon.
Oui, j'en suis très fier. Et reconnaissant.
Tout d'abord, Monsieur Decaux, pourquoi vous êtes-vous intéressé et êtes-vous revenu sur cet épisode qui a été souvent mal vécu par les Français, enfin reproché à son auteur en tout cas, et même Napoléon III lui-même n'assumera pas toujours ce coup d'État.
Écoutez, comment trouve-t-on un sujet de livre? C'est une question qui s'est posée toute ma vie, puisque j'ai écrit toute ma vie. Mon premier livre est un livre d'histoire que j'ai écrit à 22 ans. Non, il est paru à 22 ans et j'ai commencé à l'écrire à 20 ans. Voilà, c'était un peu tôt, mais donc à chaque fois un sujet. Ça ne vient pas comme ça d'un seul coup. Il faut le laisser venir, mais le guetter quand il se présente. Alors, je dois dire que depuis très longtemps, je m'intéresse à Napoléon III. Un de mes premiers livres a été consacré au prince impérial. J'ai ensuite écrit un livre plus tard qui s'appelle « L'Empire, l'amour et l'argent ». C'était le Second Empire et je le dépeins un peu divisé entre l'amour, les grandes, etc., et l'argent, parce que l'argent est très important. Alors voilà, j'ai écrit aussi un livre sur Offenbach. Nous sommes en plein Second Empire. C'est vous dire que je suis à l'aise dans le Second Empire. Alors c'est sans doute ce qui a motivé mon choix. Il y a tout de même eu beaucoup de livres sur ce coup d'État. Et je trouvais que c'était possible d'en écrire un autre avec très clairement dire ce que j'en pensais.
Avant d'aborder le coup d'État, vous montrez qu'il est un long processus réfléchi finalement, et processus au cœur duquel se trouve Louis-Napoléon Bonaparte. Et dans toute la première partie de votre ouvrage, vous revenez sur son parcours.
Oui.
Et on voit bien qu'il n'a pas été finalement l'opportuniste qu'on a dit, que tout ça était très réfléchi de sa part.
Oui, c'est ce qui m'a frappé. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que quand on racontait le coup d'État, c'était de but en blanc. C'est pas comme ça que ça se passe. Il n'a pas... Et tout à coup, du jour au lendemain, je vais faire un coup d'État demain. Non, il est frappé par toute cette vie, il est imbibé par cette vie qui tourne autour de son oncle, de Louis-Napoléon, de Napoléon Ier. Alors, on cite une phrase qui semble vraie et qui paraît fausse. Juste avant de partir pour Waterloo, il y a des témoins, on peut le croire, mais on a toujours peur que ce soit un mot. Les mots historiques sont en général pas tout à fait historiques. Mais moi, je ne sais pas, mais il faut le citer, ça m'a frappé. Il part pour Waterloo et il est entouré de sa famille, et notamment d'un de ses neveux, fils de son frère Louis et de Hortense. Il a 7 ans, il s'appelle Louis-Napoléon, et au moment où on dit que Napoléon va partir pour la guerre, il éclate en sanglots et lui dit « Ne partez pas, ne partez pas parce que les ennemis vont vous faire du mal. Alors je veux venir avec vous. » Alors Napoléon Ier sourit, le remet sur les genoux de sa mère et il aurait dit « Peut-être est-il l'avenir de ma race. » c'est beau, mais c'est peut-être trop beau. Voilà. Mais enfin, je le cite au début de ce livre. Et en effet, après Waterloo, vous savez, tous les Bonaparte sont chassés de France. Lui, avec son frère aîné et sa mère Hortense, quitte la France. Et pour trouver un asile, ce n'est pas facile. Les alliés s'unissent pour empêcher les pays. On dit, si vous accueillez ces gens-là, eh bien, ils vont en cuire. Et pourtant, Hortense, après des mois de recherche, aura l'appui paradoxal de Metternich, le chancelier autrichien, et aussi du tsar. Le tsar, c'est pas direct, parce que le tsar... Il faut se souvenir aussi qu'il y a eu deux occupations de Paris, 1814 et 1815. Là, ça s'est passé beaucoup plus, humainement. Le tsar a été accueilli dans la haute société française comme vraiment quelqu'un de la maison. Et il a été accueilli par Joséphine, qui était restée pendant que son ancien mari, voguait pour Sainte-Hélène, et puis Hortense aussi. Et qu'il était heureux d'avoir été reçu dans cette famille des Bonaparte. Et il a été très fâché, très très fâché, quand il a vu que Hortense, dès que Napoléon revenait de l'île d'Elbe, eh bien l'accueil...
Malmaison.
Voilà. Alors, c'était fini. Et curieusement, elle s'est adressée à lui tout de même en demandant Hortense qui veuille bien la soutenir. Aucune réponse du tsar, qui visiblement lui en veut. Mais des ministres du tsar font le nécessaire. Ils n'avaient pas perdu l'affaire. Et c'est en effet les ministres du tsar et Metternich qui vont aider Hortense et ses enfants à trouver un asile. D'abord en Bavière, où il va faire ses études, une partie de ses études, et ensuite en Suisse.
Au château d'Arenberg.
Voilà.
Et c'est au cours de cette longue période d'apprentissage, oui, il va quand même tenter, Louis-Napoléon Bonaparte, deux coups de force.
Oui.
Un premier à Strasbourg, un second à Boulogne.
Oui. Mais entre-temps, il pensait, comme presque tous les... Cette génération-là des Bonaparte, non, les aînés, Joseph...
Giraud...
Il pensait à leur sécurité. Mais la génération qui suivait disait, il faudra qu'on nous rende ce que les Français nous avaient donné, c'est-à-dire le pouvoir. Quant à Louis-Napoléon le nôtre, eh bien, il disait, moi, ça ne me concerne pas, il y a le roi de Rome. Et le roi de Rome est mort jeune.
En 1832.
Et il disait, mais c'est mon frère aîné. Et le frère aîné mort jeune. Il est l'aîné de la deuxième génération. Il se sent réellement une mission. D'où, en effet, les essais auxquels il se livre. Le premier, Philippe Séguin, qui a été l'un des premiers à vouloir réformer l'image que l'on se faisait de Napoléon III. Et j'aime beaucoup son livre, et à mon avis, c'était très courageux, puisque son livre s'intitule « Louis-Napoléon... »
Le Grand.
Le Grand. Voilà. Bon. Alors, les historiens, depuis, il y a eu plusieurs ouvrages. Ça se modifie de plus en plus. Napoléon III n'est plus tout le traître, l'affreux, l'avide, etc. Non, il y a beaucoup d'ouvrages qui réforment peu à peu. Et je me glisse.
Mais on lui reprochera toujours...
Le coup d'État.
Le coup d'État.
Alors, voilà, le coup d'État. Deuxième République, il est en Angleterre. Et après s'être évadé du fort de Ham, où
voilà,
il avait été condamné à la perpétuité après son échec de Boulogne.
Et où il avait beaucoup travaillé.
Et voilà, il l'a dit lui-même. C'était
l'université de Ham.
Mais on peut le contrôler. On a la liste des livres qui partent pour Ham, prêtés en majeure partie par la Bibliothèque nationale, ce qui était bien. C'était bien.
Ouais. Un bon investissement.
Et on l'a. Et c'est fou ce qu'il a lu. Ne serait-ce que l'été 46, avant qu'il s'évade, on a une vingtaine d'ouvrages qu'il demande. Les uns sont en français, naturellement, d'autres en anglais, d'autres en allemand, d'autres en latin. Je suis arrivé à me dire qu'il était finalement l'un des hommes les plus cultivés de son époque. Et personne ne le dit, ça. parce qu'il a voulu, et évidemment une mémoire qui a absorbé tout ça. Donc il est en Angleterre, on lui annonce que Louis-Philippe s'est enfui sous la pression publique et qu'on a proclamé la Deuxième République. Et il part aussitôt. Il est exilé depuis 1815, mais il considère que c'est fini puisqu'on a la République de nouveau. Il arrive à Paris et écrit à Lamartine, qui est à la tête du gouvernement, et pour dire qu'il est à la disposition de quand on, si on a besoin de lui. Lamartine trouve que c'est prématuré et lui dit « Ce sera très bien plus tard, mais maintenant rentrez en Angleterre, on vous le demande instamment. » Il est rentré.
Et là, oui, son habilité politique est remarquable
à ce moment-là,
absolument. Parce qu'il sent que le temps n'est pas venu.
Et en même temps, il ne pouvait pas prévoir l'insurrection qui allait se faire quelque temps plus tard, quand on supprime ce que le peuple avait demandé de droit au travail et qu'on ferme tout ça. Et alors Paris s'insurge et il y a une répression gigantesque, 8000 morts. Et il écrit, mon Dieu, c'est ma chance, non pas qu'il soit content qu'il y ait tous ces morts, pas du tout. C'est pas un homme sanguinolent, c'est qu'il sait que s'il avait été là, tout serait tombé sur lui. Là, il n'était pas à Paris. Et il revient à ce moment-là.
Donc, il va se faire petit à petit.
Il est élu, il y a les élections.
Partielles.
Il se présente, député. Et il est élu avec un chiffre très considérable. Et ensuite, il va donc siéger à l'Assemblée. Et ensuite, la Constitution prévoit une présidence de la République. Et élu par le peuple français tout entier, au suffrage universel. Pourtant, la même Assemblée avait supprimé le suffrage universel. Mais pour le président de la République, on ne pouvait pas le supprimer. Il se présente, alors tous les adversaires...
Thiers,
c'est un sot, mais nous le dompterons, etc. Il a 74% des voix contre Lamartine, contre Jean Garnier, contre tous des gens très illustres, Raspail, etc., 74, c'est fou.
C'est le choc.
C'est un chiffre immense. Les Français le veulent. Et il va commencer sa présidence à l'Élysée. Il va bien qu'on y trouve un endroit.
Vous décrivez d'ailleurs son arrivée à l'Élysée dans un palais qui ne l'attendait pas.
Ah, mais non. Il y avait eu un rapport du délégué aux travaux publics qui avait dit, mais il est inhabitable, il faudrait faire énormément de travaux. Et il a dit à Victor Hugo, très peu de temps après, « Je n'avais même pas un lit pour me coucher quand je suis arrivé pour y habiter après son élection. » Alors voilà comment ces 4 ans. 4 ans réduits d'ailleurs à 3 ans et demi. Parce que l'Assemblée avait voulu qu'elle soit renouvelée au même rythme. Lui, il n'avait pas à s'opposer, il avait confiance en l'avenir, peut-être en lui-même, mais il n'avait pas tort. Et bon, arrive la fin de son mandat. La Constitution ne prévoyait qu'un seul mandat. Et il demande à l'Assemblée de réviser la Constitution pour qu'il puisse faire un deuxième mandat. Et l'Assemblée va voter sa fin à elle-même en repoussant la demande d'un deuxième mandat.
Oui, parce qu'en fait, Louis-Napoléon Bonaparte s'est retrouvé dans une situation un peu singulière. Il était soutenu par le peuple et refusé, même repoussé par la classe politique.
Oui, tout le monde.
Et c'est eux-mêmes qui l'ont poussé au coup d'État.
Oui, et en plus, quand on lit bien tous les textes de l'époque, on s'aperçoit que pendant un an avant le coup d'État, tout le monde en France parlait d'un coup d'État. On ne savait pas si c'était lui, mais certains disaient « Jean Garnier, le général Jean Garnier, va faire un coup d'État ». Lui-même le disait, bon, parce que ce n'était pas vivable. Et évidemment, dès le moment où on repousse sa demande, l'idée vient de s'appuyer sur ce peuple qui manifeste son attachement et de prendre lui-même ce qu'on lui refusait. Alors vous le savez qu'il cessera organisé tout à fait remarquablement, scientifiquement. Il aura autour de lui Morny, qui est son frère, parce que son frère adultérin, si j'ose dire, puisqu'il est le fils d'amour de sa mère Hortense avec le général de Flahaut. Il se connaîtra à ce moment-là. Et il s'apercevra que Morny est un homme très habile, ce qui peut lui être utile. Il y aura aussi Maupas, qui est un préfet, qui a montré son attachement. Il se dit, cet homme sera un excellent préfet de police. On a rappelé un général qui sert en Algérie depuis longtemps, le général de Saint-Arnaud, et parce que l'Algérie est toujours en guerre contre la France, elle n'accepte toujours pas la présence française. Et lui, il avait fait beaucoup de choses utiles, et avec ce tout petit groupe, on va faire le coup d'État.
Oui, il ne faut pas oublier le fameux Persigny aussi.
Oui, Persigny. On ne peut pas dire qu'il a été vraiment parmi les têtes de file. Il était pour. Persigny, alors il faut remonter en arrière. Un jour, quand il était encore en Suisse, il a vu arriver un homme qu'il ne connaissait pas et qui lui a dit, « Monseigneur, il faut que vous preniez le pouvoir. » C'était un peu bizarre. Et c'est un homme d'ailleurs bizarre. C'est un homme bizarre qui a été sous-officier dans l'armée, puis qui est parti, qui était bonapartiste. Il a essayé lui aussi de réunir des gens autour du souvenir de Napoléon Ier, et il était persuadé que le moment était venu. Et c'est là où il y a eu le coup d'État raté avec Persigny à Strasbourg. Et Philippe Séguin, je reviens à lui, dit que ce coup d'État était très bien préparé. Mais il y a eu un hasard. On avait arrêté le général commandant en chef à Strasbourg. On l'avait mis à l'abri. Et ne se doutant pas qu'il était fort physiquement, et là, qui va pouvoir s'évader et alors ameuter les autres. Et là, c'est là-dessus, mais c'était très bien organisé. Et vous savez que Louis-Philippe, qui n'était pas un mauvais homme, a dit on oublie, on le met sur un bateau, on l'envoie en Amérique. On peut dire que le rôle de Persigny, c'est d'avoir persuadé que cette pensée profonde, un peu vague quand même, pouvait être suivie. Et là, au moment du coup d'État,
il est
quand même pas tout à fait l'un des agents. Les agents, c'est ceux que j'ai cités. Alors bon, le 1er décembre 1851, parce qu'il fallait trouver la date. Et évidemment, c'est Louis-Napoléon qui a trouvé le 2 décembre. Le 2 décembre, c'était l'anniversaire d'Austerlitz, mais aussi...
Du sacre.
Du sacre, voilà, de Napoléon Ier. Voilà. Alors donc, moi, ce que je trouve d'une habileté presque diabolique, c'est la rédaction des affiches qui vont être imprimées la nuit à l'imprimerie nationale. Chaque ouvrier de l'imprimerie nationale étant gardé par un soldat pour qu'il ne change pas un mot. Et on imprime des affiches qu'on va trouver à 7h du matin dans Paris. Et les lève-tôt, notamment les travailleurs, voient ces affiches. Et qu'est-ce qu'il voit ? Le prince-président décide. 1. L'Assemblée nationale est dissoute. Tous ces gens-là n'étaient pas pour l'Assemblée nationale. Ils sont contents. 2. Le suffrage universel est rétabli. Et voilà tous ces gens qui vont travailler. Ah, ils nous rendent notre... On nous l'avait volé. Et après, ça aurait pu ne pas tourner mal. Tourner mal, c'est-à-dire qu'il y ait des morts de part et d'autre. Là, c'est très, très bien organisé par Saint-Arnaud, qui avait, sans que ça se voie tellement, fait venir 60 000 hommes de troupes à Paris, dont certains avaient servi en Algérie. Donc, il y avait une expérience. Et ils étaient là, on les avait disséminés, ça ne se voyait pas tellement. On pouvait penser que les gens seraient contents, mais bien sûr, là, c'était la Deuxième République, qui avait un personnel, qui avait des chefs, qui avait des responsables, eh bien, ces gens-là ne pouvaient pas accepter facilement. De sorte que si le 2 décembre s'est passé sans aucun ennui, Paris marchait très bien, les omnibus roulaient, les banques étaient ouvertes, les magasins, on pouvait acheter ce qu'on voulait. C'est le lendemain que ça s'est gâté parce qu'on a construit des barricades. Oui, c'était une habitude chez les Français. Parce qu'il y a toujours des barricades. Alors, il y a eu des barricades sous Louis-Philippe, des barricades lors de l'insurrection de juin, et encore des barricades. Bon, et il fallait réduire ces barricades. Donc, on a fait marcher, pas les 60 000 hommes, mais une partie. Et on a échangé, les barricades ont tiré, les soldats ont tiré. Et il y a eu quand même un nombre relatif de morts. Les chiffres varient, mais ça n'est pas extraordinairement élevé. Ça marche entre 200, je dirais que c'est 200 de trop.
Mais c'est moins que les 8000.
Les 8000, c'est rien à voir. Et quand on pense à la Commune de Paris de 1871, qui a été anéantie par M. Thiers, quand on voit les photos de M. Thiers, un charmant homme qui a fait entrer la troupe, des jeunes soldats à qui on a dit il n'y a là-dedans que des assassins, tirés sans aucune... 22 000 morts. De sorte que, moi, je dis dans mon livre, il est vraiment très délicat d'opposer des morts à des morts. Mais voilà, alors il a pris le pouvoir immédiatement. Un plébiscite a été immédiatement organisé parce qu'il voulait savoir si on l'approuve.
Ratifié par le peuple.
Et personne n'a jamais dit que c'était truqué. Même ses adversaires. Non, c'était des votes très officiels. Et il a eu un chiffre considérable. Encore plus que à sa élection.
De l'année précédente.
Alors là, bon, il a soumis au plébiscite cette question. La présidence de l'UNEVOL sera prolongée de 10 ans. Mais elle a été ensuite, un an après, le Sénat a signalé, a proposé qu'il devienne empereur des Français.
Et ça a été accepté.
Napoléon III.
Voilà.
Et alors, là, avec un plébiscite encore plus grand. On ne le raconte jamais. On dit tout ça, c'est fait, il l'a fait par la force. Mais quand les gens votent et que tous les historiens sont d'accord, ce n'est pas truqué du tout. Je ne dis pas que les plébiscites du Premier Empire n'étaient pas vraiment truqués, mais il y avait toujours quelques soldats autour des urnes. Ce n'est pas le cas, là.
Même si Louis-Napoléon est au cœur de votre ouvrage, il y a bien sûr un autre personnage dont on n'a pas encore parlé et qu'il faudrait évoquer, puisque c'est un peu grâce à lui aussi que Louis-Napoléon va arriver au pouvoir. Et c'est aussi surtout grâce à lui que le coup d'État va être connu comme un épisode négatif de notre histoire. Il s'agit bien entendu de Victor Hugo.
Et voilà, merci de le rappeler, parce que je me suis trouvé dans un débat intime, énorme. Je suis un Hugolien depuis l'enfance, depuis que mon père m'a offert pour Noël Les Misérables. J'ai lu à 13 ans et demi Les Misérables. J'en suis sorti dans un état immense. J'ai pleuré à la mort de Jean Valjean. Et après, j'ai voulu lire le reste. Et j'ai tout lu de Hugo. Et je suis devenu plus un Hugolien, un Hugolâtre. Et voilà que j'écris un livre où je ne peux pas être d'accord avec Victor Hugo, parce que ce qu'il a fait, je cite ses propos et même des choses qu'il a écrites dans Les Châtiments, il a publié tout de suite, puisqu'il a été parti pour l'exil, et il a publié très vite Les Châtiments, qui sont un chef-d'œuvre. Et puis L'Histoire d'un crime, qu'il publiera beaucoup plus tard, c'est un chef-d'œuvre aussi, parce que Hugo ne publie que des chefs-d'œuvre. Et puis voilà que... Il est à l'origine de la légende, la mauvaise légende de Napoléon III. Parce que pendant le Second Empire, des universités lisaient Victor Hugo, l'admiraient autant que moi. Et quand ils lisaient le mal qu'il écrivait de Napoléon III, ils avaient tendance à partager les idées de Victor Hugo. Alors voilà, mais j'ai essayé d'équilibrer, mais je n'ai pas donné raison ni à l'un ni à l'autre. Mais quand même, j'ai voulu que le lecteur participe de mon débat intime et j'ai écrit une lettre à Victor Hugo.
En
qui est la fin du livre. Et lettre à Victor Hugo, je me suis dit, comme Victor Hugo croyait en Dieu, il le disait, il priait Dieu plusieurs fois par jour, il n'était pas catholique, il n'avait aucune religion, et il écrit dans son testament: je vais retrouver le grand œil de Dieu. Ben alors, je me suis dit donc, peut-être que ma lettre, il le lira. Lettre à Victor Hugo, ça commence par « Cher grand homme ». Je dis à Victor Hugo, mais je vous admire depuis toujours, vous le savez bien. J'ai écrit une biographie de 1036 pages qui n'est qu'un cri d'admiration. Et puis voilà, et je lui dis, mais vous m'avez déçu. Alors voilà. J'explique pourquoi, ce que je viens de vous dire à l'instant.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Decaux, de cette nouvelle vision du coup d'État. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage « Coup d'État à l'Élysée » aux éditions Perrin. Au revoir à tous et à toutes.
Merci.